parabole du jour avec le Père Willem.
Tu choisiras la vie. Pour en revenir à l'arbre qui est au milieu du jardin, les commentaires rabbiniques ont relevé qu'il s'agissait tantôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tantôt de l'arbre de vie. Alors, comment peut-il y avoir deux arbres au même endroit ? L'un d'entre eux, l'un de ces rabbins, répond qu'il s'agit en fait du même arbre, ce qui revient à dire que le commandement qui dit « Tu écouteras le Seigneur ton Dieu, tu mettras en pratique ses commandements » et ses prescriptions est le même que celui qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Voyez dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Ce choix n'est pas à la frontière du jardin, il en occupe le centre, comme il est au centre de la vie. La Bible nous rappelle que c'est tous les jours qu'il faut choisir la vie et pour cela renoncer aux œuvres de mort. C'est tous les jours qu'il faut choisir l'amour et pour cela renoncer au repliement sur sa propre expérience. Dans un débat, des maîtres rabbiniques du second siècle s'interrogent sur la question de savoir quel est le plus grand commandement de la Torah. Rabbi Akiba apporte une réponse qui nous est familière. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voyez dans Lévitique 19-18. Un autre sage, Ben Azaï, propose une réponse étonnante. Selon lui, le plus grand principe de la Torah est le verset qui dit « Voici l'histoire des générations de l'homme » dans Genèse chapitre 5, verset 1. Pour ce maître, l'amour est important, mais le combat de la vie symbolisé par la succession des générations est encore beaucoup plus important. Dans ce débat, les évangiles prennent plutôt le parti de Rabbi Akiba, puisque Jésus a résumé la Torah dans le commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne et ton prochain comme toi-même » dans Matthieu 22, 37. Mais le Nouveau Testament n'ignore pas la position de Ben Azaï si nous nous souvenons qu'il commence par une généalogie qui va d'Abraham à Jésus dans Matthieu chapitre 1. Cette généalogie patrilinéaire égrène les noms de 42 hommes et de 4 femmes seulement. Ces femmes s'appellent Tamar, Rahab, Ruth et Bethzabée, qui ont en commun de ne pas avoir toujours eu une vie moralement exemplaire, mais qui toutes ont été des combattantes de la vie. Tamar était cananéenne, donc une païenne, et s'est fait passer pour une courtisane afin d'avoir un rapport incestueux avec son beau-père pour faire valoir ses droits. Voyez dans Genèse, chapitre 38. Rahab habitait Jéricho, exerçait le plus vieux métier du monde. Elle a protégé les espions d'Israël, car pour elle, l'hospitalité était plus importante que la raison d'État. Voyez Josué, chapitre 2. Ruth était moabite, mais elle restait fidèle à sa belle-mère et lui offert une descendance en se couchant aux pieds d'un riche cousin. Voyez dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 4. Bethsabée, mariée à Hittite, était adultère. Elle s'est battue pour faire valoir ses droits parmi les épouses de David dans le deuxième livre de Samuel, chapitres 11 et 12. On trouve tout ça dans la Bible. Mais Marie, parmi ces 4 femmes, se trouve donc une incestueuse, une courtisane, une étrangère et une adultère. Leur vie sentimentale a été agitée et pourtant, elles sont entrées, parfois par effraction, dans la généalogie du Messie. Si elles ont reçu cet honneur, c'est parce qu'elles ont choisi la vie. Elles ont été de merveilleuses merveilleuses, des merveilleuses. Pour illustrer ce choix de la vie, arrêtons-nous sur l'histoire de Ruth la Moabite. Lors d'une étude biblique sur le livre de Ruth, avec des personnes d'origine africaine, l'une d'entre elles a dit « Ah, finalement, l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'un couple qui émigre parce qu'il n'y a rien à manger dans son pays. Là, il rencontre le grand malheur et la femme se trouve seule avec sa belle-mère. Elle lui dit alors de se débrouiller pour épouser un riche afin qu'elle ne meure pas de faim. » Et d'ajouter « Oh, des histoires comme ça, dans les milieux de l'émigration, on en connaît tous plusieurs. » Cet interlocuteur avait raison. L'histoire de Ruth est assez quelconque, mais alors une question se pose, pourquoi est-elle dans la Bible? Au risque de choquer certains lecteurs. Les commentaires disent que c'est à cause de la faim, parce que l'enfant que Ruth a eu avec Boaz était le grand-père de David. Alors, le livre de Ruth est dans la Bible pour expliquer pourquoi David a eu une aïeule moabite, alors qu'un verset du livre du Deutéronome déclare solennellement « L'ammonite et la moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en est ainsi pour toujours » dans Deutéronome chapitre 23, verset 4. D'un côté, le Deutéronome déclare que le Moabite n'entrera jamais dans la maison du Seigneur, et de l'autre, le roi David a une arrière-grand-mère Moabite. Pour la Bible, l'amour et la fidélité dans Ruth a témoigné en faveur de Naomi, et son combat pour offrir un avenir aux siens sont plus forts, plus importants que l'interdit qui repose sur son peuple. Si la loi rappelle que l'ammonite et la moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, c'est du fait de l'origine incestueuse. Ces deux peuples sont en effet des descendants de deux garçons que les filles de Lot ont eus avec leur père. Si Ruth est néanmoins entrée dans cette généalogie, c'est du fait d'une autre lecture de l'épisode des filles de Lot. Selon cette autre lecture, lorsque Lot et ses filles se sont enfuis de Sodome et lorsque le feu est tombé sur la ville, les filles ont pensé que le monde entier avait disparu sous le déluge de feu et qu'elles étaient les seules survivantes. L'alternative qui se présentait à elles était alors la suivante. Soit elles ne faisaient rien et l'espèce humaine disparaissait, soit elles avaient un enfant et cela ne pouvait être qu'avec leur père. Les filles de Lot ont préféré la vie au prix de l'inceste, à l'extinction de l'humanité. Le commentaire poursuit disant que dans le malheur, la femme de Lot a regardé derrière elle et qu'elle a été transformée en statue de sel, alors que les filles de Lot ont regardé devant et qu'elles ont été à l'origine de deux grands peuples. Elles ont choisi la vie. Ô bonheur, aussi beau que le plus beau des papillons, aussi insaisissable que le vent virevoltant, aussi susceptible qu'une jeune amoureuse, aussi volatile qu'une vapeur légère, aussi imprévisible que la vagabonde imagination, mais aussi chaud et doux qu'une laine d'agneau, aussi lumineux qu'un rêve d'aurore incendié par un soleil d'espérance, aussi bienfaisant qu'une fraîche eau de source. Tel est le vrai bonheur qui est joie, amour et paix de l'âme. »